Le journal David Sanchez.
Bonjour. Le vivier à Cortaillot bichonnet. Ce petit cours d'eau de 2 km alimenté par l'Areuse et qui se jette dans le lac de Neuchâtel est actuellement en phase de revitalisation, comme on a pu le lire dans le Littoral Région, le journal hebdomadaire du district de Vaudry. Les travaux ont commencé le 18 juin et vont se poursuivre jusqu'au 31 octobre. Il s'agit notamment d'assainir le lit de la rivière, d'élargir à certains endroits ses berges et d'améliorer la migration piscicole sur un tronçon de 700 mètres environ. Après le Seillon au Val-de-Rue, c'est donc au tour du vivier à Cortaillot d'avoir droit à son coup de jeûne. Les explications de Johanna Ramos, la responsable de ce projet.
Ça rentre dans le cadre de la planification stratégique de la revitalisation. Donc, tous les cantons doivent revitaliser leurs eaux sur 80 ans. On a dû faire une planification sur 20 ans. Et puis, on a pu déterminer les tronçons des cours d'eau neuchâtelois qui méritent d'améliorer ses fonctions écologiques parce qu'ils sont un bénéfice important pour la nature et les paysages au regard des coûts prévisibles.
Des propos recueillis par Jean-Paul Picci. La revitalisation du vivier à Cortaillot va coûter environ 400 000 francs. La Confédération subventionne les travaux à hauteur de 45%. Le reste est pris en charge par le canton de Neuchâtel. Coup d'envoi du Paléo Festival de Nyon, Dépêche Mode et Caléo ouvriront les feux ce soir sur la plaine de Lasse. 230 000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche. Aurel San, Gorillaz, The Killers ou encore Indochine sont également à l'affiche de cette 43e édition. Comme chaque année, le festival a son lot de nouveautés, à commencer par la programmation. Le patron du Paléo, Daniel Rosselin.
C'est vrai que chaque année, la programmation, elle change beaucoup. Cette année, 85% des artistes sont jamais venus. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait par l'organisation de renouvellement. On ne cède pas à la paresse ni à la facilité en réinventant toujours les mêmes artistes. Et puis, le village du monde, je pense que vraiment, c'est une thématique excellente de traiter l'Europe du Sud. Des pays qu'on croit connaître bien et finalement, on ne connaît pas si bien que ça les musiques de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, du sud de la France ou de la Grèce. Plein de choses qui font qu'on a à la fois suffisamment de nouveautés pour qu'il y ait des découvertes des spectateurs, puis quand même pas mal de repères que les festivaliers aiment bien retrouver année après année.
Des propos recueillis par notre confrère de LFM, Charles Super. Animation, spectacle de rue et autres curiosités architecturales complètent le programme. Le festival affiche complet, mais 1500 billets seront mis chaque jour en vente sur Internet. C'est au Parlement et pas à l'Office fédéral des transports de décider si le réseau suisse des grandes lignes ferroviaires doit être ouvert à la concurrence. Les CFF continuent de revendiquer le monopole sur ce réseau, alors que l'OFT a attribué 2 lignes dans la région de Berne à la société concurrente du BLS. Les CFF ont déposé un recours auprès du tribunal administratif fédéral, estimant que les bases juridiques ne sont pas claires. Pourquoi vouloir conserver le monopole de l'exploitation des grandes lignes ? Le patron des CFF, Andreas Meyer, l'explique en fin d'année dernière.
Parce qu'il y a dans notre réseau qui est énormément chargé, énormément défi d'avoir un opérateur qui est responsable pour tout. C'est aussi facile pour les clients et pour les commanditaires. Et puis, nous avons des synergies. Nous faisons tout sous le titre de notre programme RailFit 2030 pour que les prix des billets n'augmentent pas si possible et que les indemnités payées par la Confédération et les cantons reste le plus stable possible.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Le Pérou décrète un état d'urgence de 60 jours à sa frontière avec la Colombie. Il invoque la présence de gangs de trafiquants de drogue et de dissidents de l'ancien groupe de guérilla des FARC pour justifier sa décision. La zone déclarée en état d'urgence est la province amazonienne de Putumayo, où se trouve le fleuve Putumayo, qui divise les territoires du Pérou et de la Colombie, et appartient à la région de Loreto, la plus grande du territoire péruvien. Les trafiquants de drogue colombiens se disputent la zone où la cocaïne fait l'objet d'un trafic vers les États-Unis et l'Europe. À Hawaï, une vingtaine de personnes ont été blessées, dont une sérieusement par un jet de lave lors d'un tour en bateau pour aller observer un volcan en éruption. L'explosion de lave avait recouvert le toit du bateau et y avait creusé un trou, tandis que l'une des balustrades de l'embarcation a été endommagée. Un drame en Afrique du Sud. 6 mineurs ont été tués dans l'incendie d'une mine de cuivre dans la province de Limpopo, au nord-est du pays. Un tapis roulant utilisé pour transporter du minerai a pris feu dans une mine exploitée par Palabora Copper. Les accidents sont fréquents dans les mines d'Afrique du Sud. En 2016, 73 personnes y sont mortes. La France, championne du monde de football, est rentrée hier au Bercail. Un retour très attendu avec beaucoup de monde pour les accueillir à Paris. Les précisions de Stéphanie Wenger.
C'est un accueil triomphal qui a été réservé aux Bleus à Paris sur les Champs-Élysées. Arrivés à 17h à Roissy, les 23 joueurs de l'équipe de France et leur entraîneur ont descendu la mythique avenue dans un bus à Impérial Bleu, sur lequel était écrit « Champion du monde » accompagné des deux étoiles. 2000 policiers avaient été mobilisés pour sécuriser le trajet. Les footballeurs ont pu mesurer la joie à leur passage, acclamés par des centaines de milliers de personnes, agitant des drapeaux, lançant des fumigènes. Les joueurs saluant la foule ont immortalisé le moment avec leur téléphone. Et dans le ciel, la patrouille de France a salué le retour des champions. Peu après, c'est à l'Élysée que les Bleus ont été reçus avant de s'entretenir avec le président de la République. Dans les jardins, 3000 personnes, dont beaucoup de jeunes footballeurs en herbe, conviés pour l'occasion, jouaient des coudes pour prendre des selfies avec les héros de retour de Moscou. Les Bleus qui ramènent un deuxième titre de Coupe du Monde sur le sol français recevront la Légion d'honneur. Interrogé sur TF1, Kylian Mbappé, le jeune prodige de 19 ans et demi qui a inscrit 4 buts lors de la compétition, a déclaré « On est fiers de rendre les Français heureux ».
C'était également l'occasion pour chaque joueur de mesurer sa cote de popularité. Le défenseur Benjamin Pavard n'est pas en reste. Il est le nouveau chouchou du public français. On l'écoute revenir sur l'accueil extraordinaire et la chanson créée pour lui par les fans français. Benjamin Pavard.
Ça touche vraiment, c'est que le public français, même quand je passe à l'aéroport où là j'ai entendu mon chant, c'est quelque chose qui me touche et je remercie le peuple français pour cette attention parce que c'est des émotions qui resteront marquées à vie et cette chanson-là, ça me touche vraiment. Benjamin Pavard, Benjamin Pavard, je crois pas que vous connaissez, il sort de nulle part. Une frappe de bâtard, il s'appelle Benjamin Pavard.
Un sujet de nos collègues de RMC Sport. Et en Croatie, c'est du jamais vu, un rassemblement historique et une ville en rouge et blanc saisie de fièvre patriotique. Zagreb en liesse a accueilli en héros ses vice-champions du monde, battus en finale du Mondial 2018 par la France. Selon la police, quelques 550 000 personnes, soit une étonnante proportion de 10 à 15% de la population du pays, ont accueilli leurs joueurs à Zagreb entre l'aéroport et le centre. Il aura fallu 5 heures au bus de la sélection pour se frayer difficilement une route dans une foule dense.
Benjamin Pavard, définitivement, il a bien fait de choisir foot plutôt que musique. Hein. Un peu plus de talent avec le ballon rond. Il est 7h08, on prend quelques nouvelles du ciel. Et puis, c'est le Suédois Nano qui nous rejoint avec Hold On. Moyennement instable, voilà comment Météo News décrit le temps qui va nous accompagner ce mardi. Ensuite, nous aurons droit à deux journées estivales très ensoleillées et très chaudes. Et puis, la fin de semaine s'annonce plus maussade et plus orageuse. Bon, une journée donc en principe plutôt ensoleillée au programme de ce mardi 17 juillet, en particulier sur les régions de plaine. Il y aura tout de même quelques formations nuageuses, 2-3 averses possibles, surtout cet après-midi. Sur les reliefs, les nuageux seront plus imposants et le risque d'averses orageuses sera également plus élevé. Mais tout ça devrait se calmer à l'approche de la soirée. Une soirée qui s'annonce sèche. Les températures, cet après-midi, il va faire 21 degrés dans les montagnes châteloises, 22 degrés dans le Val de Travers, 23 dans le Val de Rue, 24 sur le littoral neuchâtelois, 25 degrés à Yverdon et 26 à Payerne. Demain, un temps très ensoleillé, quelques cumulus sur les reliefs, mais en principe un risque d'orage très négligeable. Et puis des températures de plus en plus chaudes, il va faire de 23 à 27 degrés.